chronique citoyenne avec Sébastien Saint-François.
Sébastien, salut.
Salut.
Sous la neige, es-tu au chalet là? T'es où exactement?
Non, non, je suis chez moi à Boucherville.
Bon,
mais j'ai posé sortir ce matin, je suis resté sagement à la maison.
Ben oui, sage décision. D'ailleurs, on peut le constater sur les routes. Vous êtes plusieurs à avoir pris cette décision-là, sauf nous autres.
Ils ont annoncé les fermetures d'écoles de façon préventive hier.
Ouais.
Alors, je me suis dit, on va rester chez nous parce que les écoles sont déjà fermées 12 heures à l'avance. Là, c'est sérieux.
Ouais, les deux points de cette tempête, c'est là. Puis un petit peu plus tard également, le vent va se mettre de la partie. Donc, en fin de journée, on ne s'aventure pas. Hey, Journée mondiale de la radio aujourd'hui, ça fait longtemps que tu en fais, toi?
Ben, ça fait plusieurs années, hein. Ça va faire 15 ans.
Bon, on salue ton apport, évidemment, depuis plusieurs années ici au FM 103.3. Donc, bonne journée mondiale de la radio.
Merci bien.
Hein, d'autant aussi. Plus, ben oui, tout à fait. Moi, je me sens très, très, non pas investi d'une mission, mais aujourd'hui, je ne savais pas. C'est aujourd'hui. Ben, c'est ben trop vrai. Donc, je me disais, ben, avec la tempête, avec ce qui tombe, raison de plus pour être fier d'être là puis de servir la population.
Hein? Oui, en effet.
Bon, des gens qui vont servir la population aussi, c'est Infra-Québec, Mobilité Infra-Québec. Après, donc, Santé Québec, Mobilité Infra-Québec se cherche un ou une Top Gun.
Ben oui, j'ai vu passer ça plus tôt cette semaine.
Ouais.
Donc, c'est une nouvelle structure, là, supposément, qui va contribuer à réduire les délais et les coûts dans les projets de transport collectif. Je trouve ça un petit peu préoccupant quand même, là, cette tendance vers les Top Gun. Là, on dirait que les ministres veulent se décharger de leurs responsabilités.
Ouais.
Je suis resté aussi un peu estomaqué quand j'ai appris, c'est lundi, je pense, c'est sorti justement en même temps que cette nouvelle-là, que Santé Québec, là, déjà, rappelons que Santé Québec, ça existe officiellement depuis le 1er décembre dernier, mais ils ont déjà dépensé plus de 3 millions de dollars en contrats des firmes privées.
Ben, c'est
pour aider à réduire les dépenses. Il me semble que quand tu embauches un Top Gun à 600 quelques mille, c'est parce que tu t'attends à ce que cette personne-là fasse le travail. Pourquoi on a besoin, par la suite, d'embaucher des consultants dans plus finir?
Oui, bien, il y a quelque chose de dérangeant dans tout ça. C'est comme un désaveu des gens qui, je suis convaincu que le ministère de la Santé, d'autres ministères également, transport et compagnie, qu'il y a du monde compétent là qui aurait pu faire le travail de consultant, même de Top Gun. On va chercher au privé. Il y a comme un désaveu. On va chercher notre Top Gun au privé qui va solliciter l'aide du privé. Je ne suis pas en train de dire que c'est tous des incompétents privés, ce n'est pas ça l'affaire, mais il faut faire des choix aussi. Donc, il faut sauver des frais.
Tu sais, à un moment donné, tu t'en vas chercher des gens, tu leur payes des salaires très élevés parce que tu dis qu'il faut aller chercher les meilleurs, puis ensuite, on va chercher des consultants pour les aider. C'est comme cette histoire de mobilité infra. Ça vient avec un salaire de 309 000 $ puis déjà, on annonce des primes de 15 % pour les deux premières années, alors que la personne n'a même pas fait ses preuves. Donc, on est encore dans cette mentalité de gros salaire, il faut donner des primes, il faut donner plein d'affaires pour aller attirer les meilleurs, supposément, dans l'industrie.
Pour construire un avion en vol aussi, là, quelque chose qui n'existe pas, donc partir de tout de zéro là, à bien des égards.
Ouais. Mais en tout cas, je trouve ça préoccupant comme tendance, là, parce que si c'est Santé Québec, je veux bien, là, mais déjà 3 millions en contrat à des consultants, là, ça fait même pas soit un trimestre que ça existe officiellement. C'est beaucoup, là, ça commence à faire beaucoup pour aller couper dans les dépenses. Là. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite des choses, mais ça a l'air d'être une tendance lourde au sein de ce gouvernement-là, là, les fameux Top Gun.
Ouais. Ah. Puis en même temps, ça fait image. Hein. Tu te dis, bon, ben regarde, on prend une chose en main, on nomme un Top Gun. Ça va aller.
On nomme un Top Gun qui ensuite dépense sur des consultants.
Est-ce que c'est cosmétique que ce Top Gun?
Ben, il faut se poser la question, hein, parce que est-ce que ça va mieux en santé en ce moment? On dit que les urgences sont débordées parce que là, c'est parce que c'est l'influenza, mais il y a toujours quelque chose. Vraiment les résultats vont se faire sentir sur le terrain? Ça reste à voir, mais le gouvernement de la CAQ va être lourdement jugé justement sur l'amélioration des services publics aux prochaines élections. Alors, ça s'en vient.
Ben, parlons-en, de M. Dubé qui veut forcer les nouveaux médecins à pratiquer au public.
Oui, donc on parle maintenant dans le projet de loi 83, donc on prévoit une obligation pour les médecins, les nouveaux médecins, de pratiquer dans le public pour une période de 5 ans. Même le Collège des médecins se dit d'accord. Il n'est pas d'accord avec l'histoire des pénalités financières, mais il est d'accord avec l'obligation de service public. Il faut dire que le phénomène demeure marginal au Québec. Mais c'est quand même au Québec où le phénomène est le plus marqué dans tout le pays. On a à peu près, je pense, le chiffre que j'ai vu passer, c'est quelques 800 médecins.
Oui, puis des jeunes, près de 200 jeunes médecins aussi qui n'ont jamais ou à peu près jamais travaillé au public, évidemment, pendant leur formation, mais par la suite, ouais. 200 jeunes médecins qui s'en vont, 193, je pense, sur 5 ans, là, ou à peu près. C'est quand même du monde, là. C'est des médecins qu'on n'a pas, là.
Absolument, c'est du monde. Puis faut dire aussi que les études en médecine au Québec sont quand même pas mal subventionnées par rapport à ailleurs. Les médecins, oui, ils déposent de leur poche pour leur formation, mais beaucoup moins qu'ailleurs parce qu'on subventionne fortement leurs études. Mais c'est toujours...
C'est correct de le faire. Ça permet à des jeunes peut-être issus de milieux moins favorisés. J'ai un ami auquel je pense qui vient d'un milieu mais absolument pas favorisé. Et Dieu merci, il a pu faire, faire de belles études, puis il est médecin, puis il est chirurgien.
Absolument.
Il a une belle carrière au public.
C'est ça. Ensuite, reste au service des gens qui t'ont aidé à devenir médecin.
Tout à fait.
Ben, je peux comprendre, c'est toujours le même débat. T'sais, les médecins disent, ouais, mais l'exode vers le privé s'explique parce que les conditions dans le public sont pas optimales, puis les chirurgiens n'ont pas toujours leur bloc opératoire. Donc, c'est toujours la même roue qui tourne. Alors, est-ce que ça va fonctionner, cette histoire de forcer les médecins à pratiquer au public? C'est déjà le cas ailleurs. En Ontario, ils ont légiféré là-dessus. Dans plusieurs provinces au Canada, ça existe déjà. Et c'est ça, on doit agir parce qu'au Québec, même si ça demeure marginal, si on regarde le nombre total de médecins, c'est quand même une tendance marquée. Il y en a de plus en plus qui sont tentés par l'exercice au privé. Et puis, on sait que c'est un problème, hein, les médecins de famille. Moi, j'en ai toujours pas. Ça fait 4 ans que j'attends, je pense, ou 5 ans, je ne sais plus. Heureusement, je n'ai pas besoin de consulter souvent. Je vais pour un bilan annuel, puis je vais au privé, puis ça me coûte plusieurs centaines de dollars. C'est ça, tu sais, je n'ai pas le choix. L'autre choix que j'ai, c'est quoi? C'est d'aller me parquer dans une salle d'urgence bondée.
Ou de faire ton cours en médecine.
Ouais, aller faire mon cours en médecine.
T'es une grosse balle, tu sais, là, tu peux y retourner.
Ouais,
toi,
ouais.
Tu vas faire ça, toi.
Pour quelqu'un qui veut
projet prendre de retraite,
quelques années, ça serait tout un contrat d'aller me lancer en médecine à mon âge.
Projet de retraite, faire ta médecine.
Ouais, on pourrait peut-être penser à ça, mais pas sûr. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir comment les choses vont évoluer. Au moins, le Collège des médecins n'est pas complètement fermé à l'idée.
Non, les spécialistes sont moins, cependant, ouverts.
Ouais, bien, les spécialistes, une classe à part. Hein. Les spécialistes, c'est pas facile. Avec eux autres négocier, là, c'est pas facile.
Il y en a de plus en plus de spécialistes comparativement aux médecins de famille, cela dit aussi.
Ouais,
c'est un autre problème auquel il faudra s'attaquer éventuellement.
Absolument.
Ottawa, il est plus que temps que le Canada diversifie son commerce international. Ainsi, à parler Sébastien Saint-François.
Ouais, bien, écoute, je pense que ça va de soi. De plus en plus, je lisais un texte cette semaine, on parlait de différentes unions qui se font. Là, tu sais, on parle de l'Union européenne. Ben, l'Union européenne a conclu 3 nouveaux accords commerciaux dans des zones qui regroupent 850 millions de personnes. On parle aussi du BRICS, hein, qui est formé du Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, qui gagne en ampleur. C'est sûr qu'au Canada, le Canada... Depuis des décennies, favorise le commerce avec les États-Unis parce que, bon, géographiquement, c'est plus simple qu'ailleurs. Mais là, tu sais, avec la situation qu'on a, mais avec le monsieur à la Maison-Blanche, là, qui change d'idée tous les jours, toutes les semaines, là, mm-hmm. qui nous flanque des tarifs ou des menaces de tarifs comme bon lui semble, je pense que ça nous réveille. Tu sais, hier, c'était quand même quelque chose de voir l'image des 10 ou 11 premiers ministres à la guérite pour entrer à la Maison-Blanche. Là, c'était quand même spécial.
Ouais.
Alors, je pense que, tu sais...
Et M. Legault dit qu'on va revenir souvent, en plus.
Ben c'est ça. Le problème, c'est que c'est toute l'incertitude qui est déjà dans le marché, dans l'économie, qui nous fait déjà mal. Et puis, on en a pour 4 ans. Alors, je pense qu'il devient urgent pour nous de diversifier notre commerce, pas juste pour les années Trump, là, mais pour les années à venir, parce qu'on sait que les États-Unis ont toujours tendance à être protectionnistes. Même M. Biden, il l'était.
Ben oui, les démocrates ont toujours été plus.
Oui, ils ont toujours été plus. Maintenant, avec Trump, les républicains, c'est à l'extrême. Là. C'est M. Tarif qu'on a à la Maison-Blanche. Mais, tu sais, puis ce qui est dommage aussi, je trouve, pour le Canada à l'heure actuelle, c'est que, et c'est un fait, là, malheureusement, les relations avec la Chine se sont détériorées depuis 10 ans et les relations avec l'Inde aussi se sont détériorées. Alors que l'Inde est en montée de puissance, c'est un des grands marchés qui va prendre de l'ampleur au cours des années à venir. La Chine, bon, c'est déjà un géant, puis ça va le devenir encore plus. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire pour rétablir nos relations.
Oui, mais il faut faire attention, il faut être prudent aussi, rétablir, oui, des
pas
liens.
Pas
à tout prix, parce qu'on connaît, on sait ce qui se déroule dans les pays comme la Chine et l'Inde, en particulier les droits des humains qui sont bafoués. Là,
absolument.
Il
va falloir quand même trouver un équilibre quelque part, parce qu'on ne pourra pas on pourra pas mettre un X sur ces marchés-là. Et je pense notamment aux véhicules électriques. T'sais, bon, là, c'est sûr qu'on en parle moins, là, puis on est dans une mouvance haute qu'on était il y a un an à peine. Mais tu sais, les véhicules électriques chinois, on les boude parce que les Américains ne veulent rien savoir. Mais tu sais, à un moment donné, il va falloir peut-être avoir une ouverture d'esprit parce que pas tout le monde qui peut se payer une auto à 80 000 $ là.
Effectivement.
Et puis, si on veut que les gens roulent électriques, bien, il va falloir leur offrir des options plus abordables.
Oui, comme diraient les gens d'affaires, ça peut être un excellent levier pour négocier avec nos voisins du Sud.
Absolument, absolument.
Mais voitures électriques chinoises qu'on peut faire rentrer chez nous. On termine ça, avec vers un exécutif impérialiste qui n'obéit plus aux juges aux États-Unis.
Oui. Ben écoute, je lisais, c'est un texte d'Yves Boisvert plutôt cette semaine.
Oui, j'ai lu.
Et on relatait que déjà, il y a une ordonnance d'un juge concernant le financement d'un paquet de programmes publics. Et puis l'ordonnance était que l'administration Trump débloque les fonds parce qu'on a signé un décret pour tout bloqué. Et même 10 jours plus tard, l'argent n'est toujours pas débloqué. Donc, on dirait que Trump commence à faire fi de la branche judiciaire. On a M. Musk qui traite ouvertement les juges et les tribunaux de corrompus et qui sont là pour protéger la corruption. On a même M. Vance, le vice-président, qui est diplômé en droit, qui a affirmé que les juges n'ont pas le pouvoir de contrôler le pouvoir légitime de l'exécutif. Ça commence à être sérieux.
Hey, et c'est encore plus.
Un avocat. Et ce qui est encore plus troublant dans tout ça, et ça, j'ai appris ça dans le texte de Boisvert, c'est que c'est écrit nulle part dans la Constitution américaine, le pouvoir judiciaire. C'est en fait une tradition qui s'est établie au fil des décennies, que l'administration reconnaît le pouvoir des tribunaux et respecte ce pouvoir-là, mais il n'y a rien qui est écrit qui force légalement une administration. Puis on a même donné des exemples. On parlait de Thomas Jefferson, qui était le troisième président des États-Unis au début des années 1800, qui était furieux quand la Cour suprême a rendu une décision dans une affaire maritime, et puis tellement qu'il a empêché la Cour suprême de siéger pendant presque 2 ans. Donc, tu sais, le fameux pouvoir judiciaire suprême, là, il existe simplement par coutume, là. Alors, ça devient très préoccupant dans
Il y a une petite zone d'ombre ici, là.
Pardon?
Il y a une petite zone d'ombre ici, là.
Il y a une grosse zone d'ombre. Puis si l'administration Trump décide vraiment de faire fi des décisions qui sont rendues contre ses décrets et tout ça, ça devient drôlement compliqué comme situation parce que tu te mets à la place de l'Américain moyen qui regarde ça, qui est MAGA, mais, par exemple, qui est partisan MAGA. Puis là, il dit, mon président, il dit qu'on n'a pas à respecter les tribunaux. Fait que moi non plus, j'ai respecté.
Ben non, c'est sûr que c'est la porte que ça ouvre. Personne
ne veut ça devient une situation assez étrange et délicate.
Ben oui, déjà que le président dit tu peux faire de la casse au Capitole, puis si tu fais de la prison...
Tu vas te faire gracier.
C'est ça, si tu fais de la prison, c'est une erreur, on va te sortir de là.
Oui, c'est déjà fait. Hein. Il a gracié presque tout le monde là, cette journée-là. Fait que on marche sur une ligne très mince, puis ça va être à surveiller de près, parce qu'on s'en va vers une forme d'impérialisme là, à la Maison-Blanche, puis c'est préoccupant.
Ben, c'est toute cette façon de signer des décrets, puisque tu m'amènes là-dessus, j'y penser cette semaine, toute cette façon de signer des décrets, de les montrer, puis de montrer cet homme qui fait semblant d'être réfléchi, qui est penché sur son bureau, qui est voté. Très, très, il a l'air d'un lutteur. Il fait semblant d'être... Et puis c'est très royal, très impérial.
Oui, c'est royal, puis après ça, il répond aux questions de journalistes dans le bureau ovale, puis tu vois qu'il aime ça, toute l'attention est braquée sur lui. Ça fait vraiment impérialiste.
Ah oui, tout à fait. Il y a quelque chose, tu dis, tabarnou. manouche. Ça, là, ça va rester dans les archives, cette photo-là, ces trucs-là. Elon Musk à ses côtés puis son petit gars.
Ben oui, Elon Musk. J'ai écouté le point 13 l'autre jour. C'était quelque chose là, avec X, là, son fils X sur ses épaules, puis qui expliquait le plus calmement du monde que oui, on découvre des milliards de fraudes.
Oui,
on va trouver ça.
De Gaza en plus.
Oui, Gaza. Hey, Gaza, écoute, il y a bien la charge avec ça. Il y avait le roi du Jordanie avec lui dans le bureau ovale, puis il parlait ouvertement de ça. Puis tu voyais que le roi de la Jordanie, il a rapidement sorti par la suite sur les réseaux sociaux qu'il n'était pas question qu'on aille dans cette direction-là. Non, c'est quelque chose qu'on vit, puis c'est à suivre, parce que là, si en plus on fait fi du pouvoir judiciaire au pays, là, ça pourrait virer très mal.
Oui. Donc, on regarde ça d'un œil, puis en même temps, ben, j'ai l'impression que c'est un pays qui est en train de se dévorer de l'intérieur.
Oui, on peut être à risque d'une certaine forme de guerre civile.
Ce qui se déroule, c'est pas un signe de santé dans un pays. Ça, c'est bien clair. Voilà. Merci. On se reparle la semaine prochaine, Sébastien Saint-François.
Oui, soyez prudent sur la route.
Oui, toi aussi, puis même en pelletant, là.
Oui, je m'en vais pelleter.
Ménage ton dos, t'as pas de docteur.
Non, c'est ça. Exact. Salut.